Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie Mola à Bordeaux. Cette conférence s'inscrit également dans la programmation des tribunes de la presse dont la thématique cette année est l'avenir du progrès. Bon, je vous promets qu'on allait être dans le thème. Nous accueillons aujourd'hui Aurélie Jean. Aurélie Jean, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme c'est l'usage dans notre cycle de conférences ECHO, afin de mieux vous connaître, nous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres du mot ECHO. Si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement ?
Je dirais un événement que je décris dans mon premier livre, De l'autre côté de la machine, à savoir cette discussion que j'ai eue à l'âge de 7 ans dans la cuisine de mes grands-parents lors d'un petit déjeuner. C'est un week-end et on écoutait une radio, une matinale le week-end, je ne sais plus vraiment quelle radio. Et le journaliste parlait du MIT et de chercheurs qui étudiaient mathématiquement s'il fallait courir ou marcher lorsqu'il pleut pour éviter d'être le moins mouillé possible. Et j'avais trouvé le problème rigolo, et de ce jour-là, je m'étais dit j'allais être scientifique.
Si je vous dis C comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère ?
L'idée que l'IA va exterminer l'humanité, et oui, ça c'est, je pense, cette vision long-termiste et apocalyptique me désespère.
H comme humain, quelle est la femme ou l'homme qui vous inspire le plus ?
Mon grand-père.
Et O comme optimisme ? Qu'est-ce qui vous fait rester ou qui vous rend optimiste?
Parce que je pense que l'optimisme est une nécessité. Ce n'est pas un luxe, contrairement au pessimisme. Et je pense que c'est lorsqu'on est vraiment connecté au terrain et connecté à la vie qu'on n'a pas le choix d'être optimiste. Et ceux qui sont pessimistes, c'est qu'ils ont le luxe de l'être. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Alors, formé en France, Sorbonne, Normale Sup, Mines Paris Tech et aux États-Unis au MIT, vous développez. Au MIT, vous y êtes allé finalement.
J'ai passé 5 ans. Oui, oui.
Vous avez résolu la question de la pluie, tout ça ?
Ils l'ont résolu, mais je ne me souviens plus exactement de la théorie de l'angle mouillant.
D'accord. Vous développez des algorithmes appliqués à de nombreuses disciplines, médecine, économie, entre autres, et vous enseignez l'algorithmie à l'université. Chercheuse, chef d'entreprise, vous œuvrez à la féminisation et à la diversification dans le domaine de la tech et des sciences. Vous êtes par ailleurs, et cela nous fait chaud au cœur, puisque je suis directeur d'un centre de culture scientifique, fervente militante de la culture scientifique. Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages qui ont éclairé le débat démocratique, tels que « Les algorithmes font-ils la loi ?» ou « De l'autre côté de la machine », pour lesquels nous avions reçu à ECHO pendant le Covid. Votre nouvelle réflexion, publiée aux éditions de l'Observatoire, s'intitule « Le code a changé », avec comme sous-titre « Amour et sexualité au temps des algorithmes ». Alors spontanément, on pense à Tinder, aux autres applis de rencontre qui ont révolutionné le marché de la rencontre. Mais votre réflexion ne se cantonne pas uniquement à la rencontre, puisque les algorithmes s'invitent beaucoup plus largement que cela dans nos vies amoureuses et sexuelles, établies ou en devenir. Ce soir, on va parler appli, évidemment, mais aussi messagerie instantanée, objets sexuels connectés, pornographie à la demande, et surtout nous dans tout ça. Nous verrons l'importance de bien comprendre ces rouages-là pour se forger une opinion bien plus riche que c'est bien ou c'est mal. Et alors, à titre un peu plus égoïste, peut-être que vous pourrez répondre à apporter un éclairage pertinent sur une discussion que j'ai eue avec ma fille il y a quelques semaines. Elle a 15 ans, elle est en première. Et je lui faisais remarquer que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires de cœur dans sa classe.
Une histoire de
cœur.
De cœur.
Des histoires d'amour. Enfin, on ne parle pas beaucoup. Je me disais, tiens, c'est bizarre.
J'ai cru entendre histoire de cul.
Non. Non, d'histoire de cœur. J'en étais là.
Je suis hyper ouverte d'esprit. Alors,
je suis
là, waouh.
Ça m'étonnait parce que mon année de première, ça ressemblait vraiment à une grande kermesse collective d'histoire de cœur.
Pas ça. Du tout, pas moi. Mais bon, moi, j'étais une grosse nerd. Mais
pas. En fait, elle m'a répondu, c'est normal parce que c'est pas là que ça se passe. C'est sur les messageries et les applis de rencontre. Alors, j'essaie de pas montrer mon incompréhension, voire mon inquiétude de père, mais moi qui suis un peu rangé des voitures et qui connais rien dans les rencontres digitales, je lui demande mais pourquoi. Et là, elle m'a répondu parce que c'est plus simple, c'est plus rapide, et si ça marche pas, personne le sait. Ce qui était sa réponse.
Ça résume très bien.
Ouais. Alors, c'est vrai que me concernant, dans les années 90, c'était long, c'était très compliqué, tout le monde le savait. Et les collections de râteaux faisaient partie de ma construction sociale. Mais donc, voilà, les codes ont bien changé, en tout cas pour ma fille. En tout cas, peut-être qu'on essaiera de répondre un peu à cette question. Donc, les codes ont changé, on va essayer d'en comprendre les règles. Mais avant de savoir comment les algorithmes s'emparent du sujet amoureux, est-ce qu'on peut essayer de définir de quoi on parle quand on parle d'amour ? Est-ce que c'est une science exacte ?
Alors, c'est intéressant. Merci beaucoup pour l'accueil. Je remercie la librairie Mola. Oui, j'ai visité la librairie pour la première fois et j'étais assez impressionnée. Je rêve d'avoir une librairie comme ça à côté de chez moi, pour être honnête. C'est intéressant que vous disiez ça parce que j'ai fait un deuxième chapitre dédié à l'amour qui s'appelle l'introduction à l'amour parce que j'ai réalisé en fait qu'on n'avait pas tous la même définition de l'amour. Parce qu'il y a différentes figures de l'amour, hein, bien évidemment. Il y a l'amour amical, l'amour fraternel, l'amour sentimental, l'amour sexuel, l'amour charnel et plein d'autres types d'amour. Et donc, je commence par les figures de l'amour dans le Banquet de Platon. Et je dis ça parce que, par exemple, quand vous parliez d'histoire de cœur avec votre fille de 15 ans, elle n'a peut-être pas forcément la même définition de l'histoire de cœur que vous l'aviez à 15 ans et que vous l'avez aujourd'hui et que vous l'aurez peut-être plus tard. Et donc, qu'est-ce que l'amour ? Donc, est-ce que l'amour est une science exacte ? Alors, l'amour est une science, déjà. Pas exacte, mais c'est une science. C'est une science parce que l'amour a toujours été étudié sous différents angles. Ça peut être l'angle des sciences dures ou l'angle des sciences dites molles, donc c'est-à-dire les sciences humaines. Ça peut être la sociologie, la psychologie, et puis la philosophie, et puis les sciences dures, puisqu'en fait, il y a des gens qui s'intéressent, entre autres, au fonctionnement du cerveau lorsqu'on est amoureux, ou des scientifiques tentent de démontrer l'existence ou pas du coup de foudre, ou les symptômes du coup de foudre. Ou encore, on va s'intéresser à ce qui définit la longévité d'un amour entre deux personnes, etc. Et donc, on peut aborder ça sous l'angle des sciences dures. Et puis, il y a cette fameuse mathématisation de l'amour, c'est-à-dire depuis toujours, on a toujours voulu en fait trouver l'énigme de l'amour et voir la petite potion magique qu'on pourrait envoyer à l'être qu'on désire pour qu'il nous désire en retour. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile que ça. Et cette mathématisation, elle a été jusqu'à l'algorithmisation au sein des applications de rencontres, mais je ne parle pas que des applications de rencontres, comme vous l'avez très bien dit, pour justement, donc, dans ces applications, d'aller algorithmiser ce que serait un bon compagnonnage ou un bon match, comme on dit en bon franglais. On va en parler, on pourra en reparler un peu plus tard, mais c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, ces applications nous encouragent, pour ne pas dire nous forcent, à expliciter ce qu'on souhaite. Et souvent, lorsqu'on dit ce qu'on souhaite oralement, verbalement, ou qu'on l'écrit, on a tendance à se biaiser soi-même sur ce qui est véritablement l'amour. Et je pense que si on devait écrire sur un bout de papier l'être aimé, on aurait du mal à le décrire. On le décrirait peut-être avec des critères qui nous biaisent, puisque on a aimé des gens qui étaient très différents de ces critères. Et moi-même, je suis avec quelqu'un aujourd'hui qui est très différent de ce que j'aurais pu mettre si j'avais dû l'écrire sur un bout de papier. Donc je pense que c'est important de sortir de ses propres biais.
Vous soulignez dans le livre un changement aussi de focale de l'amour, notamment, vous citez souvent Eva Illouz, en soulignant qu'en fait, on était beaucoup tourné vers un... Je me souviens plus des mots grecs, les agapes.
Agapé.
Mmh. Où on était dans une relation à l'amour tournée vers l'autre, mmh, et on est de plus en plus dans une relation tournée vers soi. Alors, est-ce que c'est la poule et l'œuf liée aux algorithmisations, mmh? On en discutera, mais...
Il y a plein de choses,
mais c'est quelque chose qui est profond, c'est-à-dire qu'on finit par s'aimer soi-même plus que, oui, d'aimer gratuitement l'autre.
Exactement. Donc ça, c'est... Elle a écrit deux livres où elle l'évoque, c'est Apicratie et elle le parle, je crois, dans Les émotions contre la démocratie, peut-être L'amour fait mal. Pourquoi l'amour fait mal aussi? Donc, dans trois livres, elle en parle, et particulièrement dans Apicratie. Donc là, c'était pour parler du développement personnel et de la psychologie positive, en disant que on est à une ère aujourd'hui où, alors qu'on vient de l'époque grecque qui a ensuite fait naître la philosophie chrétienne, qui est l'amour d'agapé, qui est une des figures de l'amour dans le Banquet de Platon, et qui est justement cet amour inconditionnel pour l'autre sans rien attendre en retour. Donc c'est le vrai amour, c'est d'aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Donc c'est un amour altruiste, un amour dit chrétien, comme on dit. Cet amour-là, en fait, il s'est atténué avec le temps, et particulièrement aujourd'hui, c'est la théorie des Bailous, et moi je l'applique à l'algorithmisation. C'est-à-dire que parce que on va avoir de plus en plus donc là, elle parle de la psychologie positive et du développement personnel, où on va penser que le bonheur ne passe que par soi. Il y a aussi cette idée que les technologies qu'on utilise au quotidien vont collecter de plus en plus de données nous concernant, qu'on appelle les données à caractère personnel, et en retour vont nous donner un service ou un produit personnalisé. Personnalisé, c'est-à-dire qu'il va être fait pour nous et uniquement pour nous. Et donc cette personnalisation, en fait, de plus en plus intense, va tendre, en fait, vers cette idée que l'amour ne passe que par soi et qu'on s'aimerait soi avant l'autre. Par ailleurs, on a une très belle révolution de l'amour fin 19e et 20e en particulier, où on s'est, particulièrement 20e, où on s'est mis, en fait, bien sûr, il y a eu le mariage d'amour qui est arrivé, donc ça a changé les choses. Et puis, au 20e siècle, ça, c'est Luc Ferry qui en parle dans La Révolution de l'amour, où il explique justement, le 20e siècle est un siècle de révolution de l'amour, parce que pour la première fois, en fait, on a aimé l'autre vraiment dans son couple, on a aimé ses enfants parce qu'on avait beaucoup moins peur qu'ils meurent avant l'âge de 11 ans. Donc on n'a jamais autant aimé nos enfants comme jamais. Et puis là, on s'aime soi de plus en plus. Et donc la question, c'est voilà, Agapé qui nous tournait vers l'autre. Aujourd'hui, on a le centre d'inertie qui revient vers nous et on s'aime davantage. Et ça a plein de dérives. Hein. La première dérive, c'est que on en perd l'amour de l'autre. L'autre dérive, c'est penser que le bonheur ne passe que par soi-même, alors que le bonheur passe par le fait de donner plus que de recevoir. Ça, c'est ça a été démontré hein, plein de fois. Et donc ça nous questionne sur notre rapport aussi à l'amour de soi. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est jamais autant aimé. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que qu'est-ce que ça veut dire de nous jusqu'à créer ce possible narcissisme qu'on découvre aussi sur les outils qu'on utilise au quotidien et qui nous met au centre d'un récit qui est le nôtre, mais un peu trop. C'est-à-dire qu'on voit tout sur les réseaux sociaux, on se met en scène, on va davantage parler nous, s'exposer, on va créer de la susceptibilité aussi au regard de ce que les gens peuvent nous dire. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui font que on devient auto-centré et on oublie l'autre.
On va rentrer dans l'appli. Vous dites que votre première rencontre avec Tinder a été brutale et discriminante.
Oui.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit de ce fonctionnement des algorithmes? Peut-être vous nous racontiez pourquoi vous avez trouvé ça brutal et discriminant.
Donc, j'étais en 2015 à Boston. À l'époque, donc, j'étais en couple, j'ai passé 11 ans avec quelqu'un. Et d'ailleurs, la petite phrase au début du livre, l'épigraphe, j'ai écrit « Je te quitte car je t'aime encore ». Et c'est une phrase que je lui ai dite en 2016 à Boston quand j'ai décidé de le quitter. Et je dis cette phrase parce que je pense qu'on rompt toujours trop tard et qu'il ne faut pas se désaimer, voire se haïr pour rompre. Mais ça, c'est un avis personnel. En tout cas, on a passé 11 ans ensemble. Et en 2015, donc, on était ensemble et encore. Et je vais chez une amie, Anna, qui habite la banlieue de Boston, pour prendre un verre. Et elle est célibataire, donc elle commence à me parler de ses relations. Elle me parle de Tinder. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais vue toucher, puisque étant en couple, même s'il y a des gens en couple qui sont aussi sur Tinder, mais ce n'est pas mon cas. Et en fait, elle me montre cette application. Et Anna est une fille extrêmement romantique, très poétique. Et là, je la vois avoir des gestes très mécaniques sur cette application qui, par ailleurs, donc l'idée, c'est que à chaque photo de profil qui apparaît, vous swipez à droite, donc vous glissez votre pouce à droite si vous aimez le profil et vous voulez le conserver, ou vous le swipez à gauche avec votre pouce, vous le glissez à gauche si vous le rejetez. Et en fait, elle avait des gestes très mécaniques, donc déjà ça m'a un peu perturbée au regard du romantisme d'Anna. Et puis, il y a eu ce fameux moment où elle tombe sur un profil intéressant. Un jeune homme qui habite pas très loin de chez elle, qui a l'air super intelligent, très joli, très mignon, qui adore les échecs comme elle. Enfin voilà, pas mal de petites choses comme ça, même si en soi, aimer les échecs, même si on aime les échecs, c'est pas forcément ce qu'on cherche chez l'autre. Mais bon, en tout cas, voilà, elle avait ce genre de critères. Et puis, elle regarde, le mec est vraiment bien et tout. Et puis, elle balaye les photos parce qu'on peut mettre plusieurs photos. Et à un moment donné, elle voit, en fait, elle entrevoit un bout de fauteuil roulant. Donc là, on comprend que le jeune homme est handicapé. Et ce qu'elle fait, c'est qu'on n'en a pas parlé. Elle me regarde, elle regarde son écran et elle glisse à gauche. Et elle passe à autre chose. Et en fait, je ne la blâme pas, comme je l'ai dans le livre, parce que je pense qu'on devient... Moi-même, j'ai été sur cette application et on devient très mécanique et notre comportement devient très déshumanisant, en réalité. Mais ça m'a interpellée parce que je me suis dit, donc ce jeune homme s'appelait John, il n'a eu aucune chance... Donc c'est John, mais ça peut être quelqu'un d'autre. La première chose que je me suis dit, c'est heureusement je ne suis pas sur ces applications parce que je n'aimerais pas savoir pour quelles raisons je suis éliminée, déjà. Et puis je me suis dit, si Anna avait rencontré John dans la vraie vie, qu'est-ce qui se serait passé? Soit elle aurait été intéressée, elle aurait été charmée, il aurait pu se passer quelque chose, ou alors il ne se serait rien passé, mais jamais elle n'aurait eu cette violence, qui est quand même assez forte, assez symbolique, cette violence dans le vrai monde. Alors que dans ce monde virtuel, et ça fait partie des thèmes du livre, c'est que de par comment fonctionnent ces outils, il y a une sorte en fait d'absence de filtre de notre part sur les comportements qu'on a les uns avec les autres. Et ça, pour le coup, je cite la sociologue américaine Dana Boyd qui a travaillé sur ce qu'elle appelle les sphères publiques et infrastructures médiatiques, donc tous ces réseaux, ces outils, et puis il y a la sphère publique et infrastructure physique, qui est notre monde à nous, où elle explique que dans notre monde à nous, en fait, on s'observe les uns les autres et sans même le réaliser, on va tendre vers un comportement consensuel. Assez urbain en réalité, poli, et que sur ces réseaux on ne s'observe pas vraiment. C'est-à-dire comme votre fille vous disait, personne ne le sait, personne ne le voit. On voit des choses, mais on voit pas grand-chose en réalité. On voit ce qu'on veut bien montrer. Vous voyez ce que les gens veulent bien nous montrer. Et donc partant de ce principe, en fait, il y a cette perte de comportement consensuel sur ces réseaux, qui est bien évidemment aussi intensifiée par les algorithmes de recommandation, les algorithmes donc, de suggestion des contenus à voir, qui nous poussent vers ces comportements, et ça je l'explique dans le livre. Mais encore une fois, donc, ce n'est pas la faute des algorithmes, comme je le dis tout le temps, parce que l'algorithme de recommandation en soi n'est pas mauvais, c'est la manière dont il a été conçu, qui nous met dans des bulles sentimentales, dans des bulles d'opinion et d'observation du monde, qui va nous retenir le plus possible sur ces plateformes, quitte à avoir ce comportement robotique, mécanique, en fait, proche de la machine. Et ça, c'est pour soutenir un modèle économique qui est ce qu'il est aujourd'hui.
Ce que vous soulignez bien, c'est qu'il faut absolument comprendre que le but de l'algorithme de l'entreprise Tinder, pour ne citer, il y en a plein d'autres.
Hein, il y en a plein d'autres, j'utilise Tinder voilà, comme un terme générique.
Un exemple, hein, que le but de l'algorithme de l'entreprise Tinder est de servir l'entreprise Tinder. C'est pas du tout de vous trouver l'amour, en fait. C'est jamais oui. L'oublier, en fait, parce que c'est fondamental dans le fait que vous dites aussi, c'est plus une application de flirt, parce que c'est
exactement
pour qu'on revienne qu'une exactement. Application pour trouver l'amour ultime.
En fait, c'est ce que je dis, c'est que par pur pragmatisme, en fait, je me dis, lorsque vous construisez, vous développez une application comme Tinder ou d'autres hein, par ailleurs, en réalité, votre objectif, ce n'est pas que les gens trouvent le grand amour au bout d'un clic ou d'un swipe. Sinon, vous mettez la clé sous la porte. Voyez. Donc, ce qu'il faut, c'est nous, ce que ces applications recherchent, c'est au contraire, c'est que vous reveniez sur ces applications, que vous échangez avec des hommes, des femmes, que vous reveniez, que vous les voyez en monde réel, que vous reveniez, etc. Et donc, ça, quelque part, c'est pour ça que ça s'appelle. Là, je cite le livre de Ansiz Ansari, qui a écrit un livre avec un sociologue américain. Donc, lui, c'est un comédien qui s'appelle. Alors, il n'est pas traduit en français, malheureusement, mais qui s'appelle. Une histoire de romance, a romance story, et dedans, en fait, si je me souviens bien du titre, a romance, et dedans, il explique justement que s'il avait fallu donner un nouveau nom à ces applications, ce ne serait pas des applications de rencontre, mais de flirt. En fait, on va flirter, on va flinguer, on va des mises en relation, mais pas de rencontre réellement, parce que la rencontre, elle est forcément dans le monde réel et elle est sous avec d'autres codes, en fait.
Alors, j'ai vu que ce matin, vous avez publié, vous avez fait une publication sur je ne sais plus quel réseau, disant que ce n'était pas tout à fait ce que vous avez voulu dire, mais je me permets de le dire quand même, parce que c'est dans le livre, vous dites que LinkedIn serait plus à même, en termes d'algorithme, de proposer quelque chose de plus
alors,
pertinent que...
Ouais.
Ah, c'est non, pas, mais, oui, je sais, parce que ce matin, vous avez publié, je sais, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Donc
non, mais c'est intéressant, et c'est là où on voit cette interprétation qu'on a constamment sur le propos. Moi, je dis rien. Il y a une statistique qui est sortie, et qui souligne qu'il y a plus de rencontres qui se créent sur LinkedIn que sur une application de rencontre. C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que LinkedIn est... Parce que je ne dis pas que ces couples-là sont hyper satisfaits et épanouis. Hein. Mais c'est la statistique qui est sortie, et j'ai trouvé que cette stat était intéressante, parce qu'elle dit beaucoup de nous. Elle dit deux choses. D'une part, c'est que dès que vous donnez un outil aux gens, quel qu'il soit, il y a un moment donné où les gens vont l'utiliser pour faire des rencontres amoureuses. Pour flirter. Et ça, ça veut dire aussi que l'amour est le plus vieux sujet de l'humanité, et c'est le sujet qui nous anime tous au quotidien. Ça peut être l'amour sentimental, l'amour fraternel, l'amour amical, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y a un autre point, c'est de dire, c'est intéressant que sur LinkedIn, alors il y a des gens qui vont dire, oui, mais LinkedIn, c'est élitiste, on va chercher des gens qui ont des diplômes, qui ont des super, super jobs et tout. Et je pense que c'est plus subtil que ça. Alors, certes, les gens se sont souvent rencontrés sur le lieu professionnel ou durant leurs études. Donc, il y avait déjà, en fait, une sorte de dénominateur commun sur ce qui intéressait les gens, en tout cas, au quotidien, professionnellement. Et moi, je pense, justement, sur LinkedIn, on voit plein de choses. Et pas que ça. On voit les sensibilités politiques, émotionnelles et intellectuelles au regard de ce que les gens postent, au regard de ce que les gens commentent et avec qui ils échangent. Et je dis ça parce qu'il y a un très bon livre qui est sorti cette année, de Guillaume Cibou, qui s'appelle Jeu de rôle à l'aube, qui s'appelle donc c'est l'image de soi sur les réseaux, où il raconte très bien que sur LinkedIn, en fait, c'est la cour de Versailles, c'est-à-dire que les gens vont vous voyez ce que je veux dire, il y a une sorte de cour de Versailles où les gens vont
se flatter
les uns les autres, ils vont attaquer certaines personnes pour se mettre en avant, ils vont lancer des rumeurs, c'est quand même très intéressant à étudier. Et en fait, quelque part, cette cour de Versailles, elle implique aussi des émotions, elle implique pas mal de choses et elle montre beaucoup de nous, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Et peut-être qu'on en parlera un peu après, mais il y a tout un chapitre où je me concentre sur la distinction bourdieusienne, qui explique en fait qu'il y a des choses qu'on ne veut pas forcément montrer de nous, mais qu'on montre par la force des choses à travers nos goûts, à travers la manière dont on va se comporter, etc. Et qui sont des petits signaux faibles et qui font qu'on se reconnaît, entre guillemets, je dis on se reconnaît, appartenant à une même classe sociale, économique, et pour reprendre les termes de Bourdieu, ayant le même capital social, économique et culturel.
On va y revenir parce que c'est très important dans la reproduction sociale. Mais Là, on a parlé des algos comme, qui ont leur propre comportement, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous dites que les algos ne modifient pas uniquement les modalités d'identification de partenaires de match online, mais qu'ils ont aussi, ils modifient nos rapports à la relation amoureuse in real life, dans la vraie vie, et qu'en fait, ils ont induit des modifications de comportement qui, parce qu'on développe des comportements dans ces modalités de rencontre digitale, qui modifient la façon dont on se rencontre et dont on devient. Vous dites même qu'on deviendrait des consommateurs, j'ai tout synthétisé en une phrase, des consommateurs déshumanisés d'un amour marchandisé.
Oui, carrément. Et ça se reprend aussi l'idée d'Eva Illouz qu'elle explique dans Pourquoi l'amour fait mal et la fin de l'amour. Oui, absolument. Ouais, et ça, c'est un concept intéressant puisque... Et je me souviens avoir lu dans, je sais plus si c'est dans La fin de l'amour ou Pourquoi l'amour fait mal d'Eva Illouz, elle expliquait que les hommes et les femmes avaient des comportements différents lorsqu'ils étaient en couple. Et en fait, ce que j'observe à travers toutes les études qui ont été réalisées sur ces applications de rencontres et les réseaux en général, que ces phénomènes s'homogénisent entre hommes et femmes et qu'on tend vers une marchandisation généralisée. Ce qu'elle explique, alors je dis pas qu'elle a raison, mais c'est ce qu'elle a observé et je pense qu'elle a raison au regard des études et les enquêtes qu'elle a faites. C'est lorsque elle expliquait, alors elle étudie que les couples hétérosexuels. Lorsqu'une femme est avec un homme, elle ne voit que cet homme, elle ne regarde pas d'autres hommes. Lorsqu'un homme est avec une femme, il peut avoir cette tendance, et je dis pas que c'est tous les hommes, en tout cas elle observe que les hommes ont tendance à regarder les autres femmes pour check the market, pour vérifier, le comparer, voilà, avec sa femme. C'est grotesque, c'est ce que vous voulez. Ce sont des comportements inconscients. Elle a beaucoup étudié. Et c'est intéressant parce que ce comportement-là, en fait, se retrouve aujourd'hui autant chez les femmes que chez les hommes. On regarde des études sociologiques qui sont sorties de par la manière dont on va se comporter sur ces réseaux. Et les algorithmes de recommandation vont toujours nous pousser des contenus qui sont censés nous plaire et nous enfermer dans des bulles sentimentales. On pourra en reparler un peu plus loin, ce qui amène à de la discrimination et autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que par ces comportements, vu qu'on nous suggère toujours du contenu, donc là c'est des profils à regarder, ou sur les réseaux sociaux ça va être des contenus d'individus, des profils avec qui se connecter, ben en fait on va être dans cette démarche de marchandisation, on va être dans cette démarche de toujours comparer, et même si on est amené, lorsqu'on est une femme, à échanger avec un homme dans la messagerie instantanée de l'application de rencontre ou du réseau social, voire à sortir de cet outil pour aller sur un autre outil tel qu'une messagerie instantanée de son téléphone portable, WhatsApp et autres, ou plein d'autres choses, en fait, on va possiblement continuer à regarder les autres profils. Donc, en fait, il y a cette sorte on tend vers une sorte de marchandisation généralisée des sentiments et des rapports humains. Et c'est ça qui est aussi qui peut être une dérive. Après, cela étant dit, moi, je porte aucun jugement en fait sur les applications de rencontre, puisque étant libéral progressiste, moi, je pars du principe que les gens sont libres de faire ce qu'ils souhaitent tant qu'ils ne font mal à personne, mais il faut qu'ils le fassent en connaissance de cause. Mmh. Et c'est ça en fait.
Vous soulignez beaucoup, c'est qu'il faut bien comprendre comment ça marche. Exactement. Pour savoir dans quoi on s'engage, voilà. Et puis l'utiliser à bon escient.
Exactement. Et par ailleurs, on connaît tous des gens qui ont été sur une application de rencontre, qui se sont rencontrés, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, et c'est tant mieux pour eux. Mais ça ne devrait pas devenir un biais de confirmation, parce que statistiquement, il y a beaucoup plus de perte de temps et d'échanges qui ne mènent à rien. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on ne perd pas toujours notre temps. Sauf qu'il y a une différence entre commencer des conversations, aller sur ces applications et ne pas forcément apprendre grand-chose de nous-mêmes. Alors que quand vous allez flirter dans le vrai monde, vous prenez peut-être des râteaux, vous allez peut-être avoir des succès, vous allez vous-même peut-être être déçu et dire à l'autre « je ne suis plus intéressé », mais vous apprenez toujours quelque chose de vous.
Et dans les comportements qu'on retrouve, ça m'avait choqué parce que je suis pas sur ce marché. Mm-hmm. Vous avez dit qu'on peut aussi se sweeper dans la vraie vie. On peut ghosting, des pratiques, le coup de pouce comme ça, on le retrouve dans la vraie vie, des choses qui relèvent de l'impolitesse totale et qu'on retrouve dans la vraie vie.
Absolument. Et là, je cite une amie à moi, Amy, à Los Angeles, qui en fait, elle m'a appelée au retour de sa date, donc de son rendez-vous.
Ça a l'air très compliqué aux États-Unis, ça a l'air très ritualisé.
Ça devient assez ritualisé en France aussi, hein, ouais. Ça devient assez... Ouais. Je pense que c'est la pop culture qui fait ça, le soft power du cinéma et autres, quoi. En fait, et des applications de rencontres qui tendent vers cette codification des dates et autres. Donc, ça faisait 2 semaines qu'elle échangeait avec un garçon, un homme, sur une application, c'était Hinge, mais peu importe, hein, ça peut être plein d'autres choses. Et en fait, ils se retrouvent un soir dans un bar à West Hollywood. Et ça se passe bien, ils rigolent. À un moment, ils s'embrassent, tout se passe bien, ils rigolent. Et puis, ils décident de manger au bar. Et là, à un moment, l'homme lui dit, est-ce que, enfin, en anglais, mais je dis en français, il dit, est-ce que tu veux venir chez moi? Et elle dit non, j'ai pas envie. Donc c'est pas grave. Ils continuent à rigoler, ils s'embrassent, tout c'est vraiment super quoi. Puis à un moment, il revient à la charge. Il dit est-ce que tu veux qu'on aille chez toi? Et elle dit non, j'ai pas envie, pas ce soir. Et là, elle lui dit ah mais donc on va pas. Enfin non, en anglais, c'est plus straight en anglais. Il dirait so we're not gonna have sex tonight. Donc on va pas avoir, on va pas faire l'amour ce soir. Et elle dit non, on va pas. Il s'est levé, il a rien dit, il s'est levé, il a payé, il est parti. Et j'ai trouvé que c'était une violence.
Hop, coup de pouce. Voilà.
Et en fait, elle m'appelle sur le chemin du retour. Elle était complètement déstabilisée. Donc déjà, je lui dis que c'était une bonne nouvelle. Parce que si elle avait couché avec lui, clairement, c'était un abruti, un odieux personnage. Et donc c'était bien. Au moins, elle savait à qui elle avait affaire. Et deuxièmement, j'ai rigolé. Je l'ai fait rire en lui disant, en fait, il t'a swipé à gauche. C'est drôle quand même. Et je lui ai dit, est-ce que tu m'autorises à mettre cette anecdote dans mon livre? Après, je lui ai demandé et j'ai changé le nom parce que c'est un peu délicat. Voilà.
Bien sûr. Alors, il est temps de faire un tour par quelqu'un que j'attendais pas dans votre livre, mais c'est tout le plaisir de ce livre. On voyage quand même énormément. On va faire un tour par Stendhal parce qu'en fait, il a développé le concept de cristallisation qui est vraiment absolument essentiel. Et Stendhal va nous aider à comprendre un des nœuds de la révolution amoureuse en cause, en cours, qui est algorithmisée, c'est la cristallisation. Alors, je pense qu'il faut vraiment qu'on insiste
revenir
là-dessus.
Revenir
sur ce que c'est, parce qu'en fait, tout se tourne autour de comment ce processus de cristallisation, décristallisation fonctionne.
Qui est aussi vieux que l'amour, par ailleurs.
Ah oui, mais ouais. Par contre, qui est bouleversé par l'algorithmisation.
Alors, Stendhal, il a écrit un livre qui s'appelle « De l'amour », et dans ce livre, en fait, il raconte, je vais essayer d'être rapide, il raconte les sept grandes étapes de l'amour. Et je vais en parler de trois seulement, parce qu'il y a trois, je me concentre sur trois dans le livre, qui sont la cristallisation, la décristallisation et la recristallisation. Alors, quand on rencontre quelqu'un qu'on désire, qui nous plaît, qu'on a des petits papillons dans le ventre, on a tendance à le ou la cristalliser. Alors, ce terme a été choisi par Stendhal pour représenter les cristaux de Salzbourg, et en fait, c'est une sorte de perfection apparente, en fait, où on a tendance à voir l'autre comme l'être parfait. Enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je suis amoureuse, j'ai tendance à rire bêtement de blagues pas drôles de mon mec. Voilà. C'est normal, c'est la cristallisation. Monsieur dit c'est vrai, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, quand mes amis ou mes copains se mettent à rire de blagues, je dis toi, t'es amoureux, ça se voit. On est un peu nié, c'est normal. Et la personne, on la perfectionne, on la voit, on voit pas ses défauts en fait. C'est normal, c'est humain. Puis à un moment, en fait, on va décristalliser, c'est-à-dire, on va voir la personne sous ses vrais traits avec toutes ses qualités, mais aussi ses défauts. Puis à cette phase après, qui est de possible recristallisation d'abandon, c'est-à-dire que soit on aime encore plus la personne avec ses défauts parce que c'est ça qu'on aime, donc on recristallise pour revenir dans l'amour, soit on abandonne parce qu'on n'est pas, on n'a pas d'amour. Et donc donc ça a toujours existé, on a toujours cristallisé, décristallisé, c'est souvent ça qui crée aussi de la déception. Hein. Quelque part, l'amour serait une machine à déception programmée puisqu'on pourrait être déçu tout le temps et bon. Et à l'heure de l'algorithmisation, parce qu'on utilise des outils qui embarquent des algorithmes pour aller communiquer, pour aller se montrer sur des réseaux sociaux, pour aller échanger, pour aller commenter, pour aller désirer l'autre, se faire désirer, etc., on va cristalliser davantage l'autre. Je donne un seul exemple. Si vous allez sur un réseau social comme TikTok, Instagram et autres, où on met vachement d'images, de vidéos et autres, vous pouvez très facilement cristalliser l'autre pour la simple et bonne raison que l'autre montre une certaine image de lui ou elle qu'il maîtrise normalement à la lettre près dans les mots qu'il utilise ou au filtre près d'une photo et autres. Et donc, on montre vraiment ce qu'on a envie de montrer jusqu'à complètement développer, enfin écrire un récit nous concernant qui est parfois complètement déformé de la réalité ou imaginaire. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une machine à cristallisation beaucoup plus forte. Vous allez me dire, pourquoi on fait ça? C'est pas la faute des algorithmes. Mais en fait, inconsciemment, les algorithmes nous encouragent à faire ça, puisque les algorithmes de recommandation, ils décident pas seuls. C'est-à-dire que les algorithmes, ils vont être entraînés sur nos données comportementales sur ces réseaux. Donc l'algorithme, il va pousser les comportements statistiques de tendance sur ces réseaux. Nous sommes tous narcissiques. C'est normal, ça nous permet depuis tout bébé de développer notre instinct de survie. Donc on est tous un peu narcissiques, ça c'est normal. faut pas trop l'être, c'est ça la chose. Et on a tendance à développer, dès qu'on nous met un outil en face, on a tendance à développer notre narcissisme. Mettez un miroir dans une pièce, tout le monde passera devant le miroir. C'est humain. Donc là, vous avez cette sorte de chose-là avec les réseaux sociaux. Donc les gens vont commencer à mettre plein de photos, les gens vont commencer à liker, aimer davantage et partager davantage des contenus où il y aura des individus sur la photo et pas un paysage. Enfin, moi, personnellement, je partage beaucoup quand il y a des chiens et des petits chats, mais c'est moi. Mais d'habitude, c'est plutôt les gens, voilà. Et en particulier, lorsque les gens se mettent, eux, en scène sur une photo, avec une certaine mise en scène, une lumière, un filtre et autres, bah, vous avez beaucoup plus de likes, de partages et de commentaires. Donc, d'engagement des utilisateurs. L'algorithme, en retour, va mettre donc davantage en avant ces contenus. Donc, vous allez, donc, c'est un cercle qui se crée. Et donc, par conséquent, vous allez avoir, naturellement, inconsciemment ou pas, fait aller tendre vers davantage ce genre de comportement. Et donc, par conséquent, vous allez être cristallisé beaucoup plus rapidement, vous allez cristalliser l'autre plus rapidement, vous allez décristalliser tout aussi violemment parce que vous allez vous rendre compte très rapidement, bah, le nombre de fois où des gens me disent « Ah oui, je l'ai rencontré, il ou elle, en vrai, mais alors rien à voir avec son compte Instagram et, ou son compte TikTok ou son profil Tinder. » Et je me dis « Bah oui, mais ça, c'est pas le vrai monde, en fait. C'est normal. » D'ailleurs, il y a plein de gens, peut-être ici, qui me disent « Aurélie, a rien à voir avec son compte Instagram. » Mais moi, je fais peu de... Vous allez voir, enfin, je fais peu de récits sur mes comptes, mais pas trop en scène. Je suis pas très, très à l'aise avec ça parce que je connais toutes les dérives en fait des algorithmes de recommandation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette cristallisation et cette décristallisation qui est suivie assez rarement de recristallisation dans le cas des outils qu'on utilise pour se montrer, se découvrir, se désirer et autres, crée en fait une fatigue émotionnelle chez les gens. Et il y a Judith Duportal que je cite dans le livre qui a fait un livre qui s'appelle Dating Fatigue, la fatigue de draguer, de flirter, de dater. Et c'est important parce que ça crée des grands huit émotionnels, en fait, assez bouleversants pour nous, êtres humains, et plus bouleversants pour des gens qui ont une maturité cognitive un peu moins développée que chez l'adulte, comme par exemple les adolescents. Et ça peut, en effet, avoir des conséquences sur nous-mêmes et sur l'amour qu'on porte, le self, l'amour qu'on porte de soi, donc l'estime de soi, et puis l'amour qu'on porte vers l'autre. Donc ça paraît simple en apparence, comme dit votre fille, elle a raison, c'est-à-dire que c'est simple en apparence de s'écrire, de ne pas s'appeler, de ne pas se voir en vrai, mais c'est à la fin beaucoup plus compliqué à moyen et long terme.
Et là, on en revient aussi au fondement même de l'objectif de l'économie de l'attention de ces algorithmes-là, qui sont de nous garder le plus longtemps possible. Et donc, en fait, ils nous fatiguent, ils nous fatiguent, mais en augmentant le volume, en raccourcissant le temps.
Oui.
On se retrouve dans des cristallisations permanentes, multiples,
exactement,
simultanées, qui reviennent, et donc on devient presque... Est-ce qu'on ne deviendrait pas addict ?
Certainement.
On crée une addiction à ce sentiment de haut, de bas, de...
Ouais. Et d'ailleurs, je parle à un moment, vers la fin du livre aussi, dans le chapitre sur la confusion des sentiments, je parle de triangulation amoureuse, même un grand sujet.
Et
d'ailleurs, c'est rigolo, parce que je me dis, mais quelque part, est-ce que l'algorithme n'est pas dans ce fameux triangle, l'algorithme et le couple, enfin, c'est rigolo. Et puis, concernant le temps que vous évoquez, c'est hyper intéressant parce que l'algorithmisation des rapports va changer notre rapport au temps. Il a déjà beaucoup changé notre rapport au temps au regard de l'algorithmisation de l'information. C'est-à-dire qu'on va aller choper de l'information sur des réseaux, sur des sites de journaux, sur les comptes des journaux, sur les réseaux sociaux, etc. Et on a un rapport au temps qui est complètement changé jusqu'à, en fait, être toujours dans cet instant recherché en permanence. Et c'est intéressant parce que, alors je recite encore le livre de Guillaume Cibou dans Le jeu de rôle, mais il dit cette chose qui, pour moi, était complètement contre-intuitive. Il dit, en fait, c'est pas parce qu'on, quand on est spontané, on n'est pas authentique. C'est l'inverse. Moi, je pensais que quand on était spontané, on était authentique, parce qu'on fait parler notre ego, par exemple, ou notre inconscient. Et en fait, c'est pas vrai sur les réseaux. Sur les réseaux, la spontanéité n'est pas l'authenticité, parce qu'on va agir spontanément et de manière inconsciente dans l'idée d'être validé par les algorithmes de recommandation qui vont davantage nous mettre en avant. Et donc, partant de ce principe, on a un rapport au temps qui est très étrange. On veut que ce soit très vite, on veut tout de suite. Et on a aussi perdu cette notion, alors c'est Platon, c'est la notion de bonheur différé. C'est-à-dire qu'on ne veut pas attendre. Et c'est aussi quelque chose qui peut nous interroger, c'est que sur ces outils, lorsqu'on rencontre quelqu'un, lorsqu'on est mis en relation avec quelqu'un, on a tendance à vouloir que ça aille vite, quoi. Qu'on échange, qu'on avance, qu'on sache si ça marche ou pas. Et en réalité, en fait, si la rencontre amoureuse se basait pour le coup sur un portrait chinois, ça se saurait. C'est plus subtil que ça.
C'est pas l'objectif.
C'est pas l'objectif, non, je m'en doute. Ouais. Et donc, c'est intéressant parce qu'il faut du temps. Et je pense pas être réac en disant ça. Encore une fois, je suis très progressiste, mais je pense qu'on se donne pas de temps. pour découvrir l'autre. Et par ailleurs, pendant très longtemps, on avait aussi, alors c'est très français, c'est beaucoup moins américain, mais souvent on commençait une relation sentimentale avec quelqu'un qui avait été un ami avant. Voilà, donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut réfléchir, et maintenant c'est d'ailleurs plus compliqué. Les jeunes envisagent moins cette idée de bah on devient ami et après voilà, c'est l'amitié peut pas se transformer en relation sentimentale au risque de perdre cette amitié. Donc c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, et la notion de notre rapport au temps a aussi beaucoup changé.
On trouve qu'ils sont drôlement perfectionnés, mais on en est quand même qu'au début. Le volume de données qui est brassé, qui est beaucoup basé sur la beauté, enfin, qui est beaucoup basé sur des choses comme ça, va s'enrichir de toute la capacité de traitement des données. C'est quoi comment ça va évoluer les phénomènes de cristallisation? Comment les algos vont travailler leur précision? À quoi on peut s'attendre, en gros, sans faire du futurisme à
deux balles, mais
à quoi on peut s'attendre?
C'est pas tant sur les capacités de calcul, c'est sur les capacités de collecte de ces données. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous êtes sur un réseau social, comme Instagram, par exemple, ou TikTok, bah, vous allez avoir certains types de comportements. Vous allez regarder des vidéos, des photos, vous allez commenter, liker, vous-même partager ou poster des choses. Donc ça, c'est assez... y a un ensemble limité de comportements que vous avez sur ces réseaux. Si demain, et là je me mets très très loin, on est dans une sorte de métaverse où on peut interagir d'une autre façon les uns avec les autres, on peut imaginer qu'on va avoir d'autres données comportementales qui vont se rajouter à celles déjà collectées sur ces réseaux. Ça, forcément, ça va avoir un effet, puisqu'on va aller vers des données comportementales plus granulaires, d'un autre genre. Dans le dernier chapitre, je parle de la sexualité algorithmisée, et par exemple des sextoys connectés, donc des objets sexuels connectés, qui certains vous disent, bah voilà, on va adapter les vibrations, la température en fonction en fait de résultats de capteurs en fait qui vont capter différentes choses sur le corps de l'homme ou de la femme, et qui va en fait pouvoir en retour donc normalement assurer l'orgasme. Bon, ça c'est ce qu'ils disent. Et en fait. Moi, encore une fois, moi, j'adore la technologie et je trouve ça génial qu'on puisse faire plein de choses. Après, c'est toujours poser la question, c'est qu'est-ce que la technologie fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle ne fera jamais. Et quand je vois des hommes, par exemple, dire oui, les femmes ont des sextoys, on sert plus à rien, je dis mais en fait, le fait de dire ça, c'est que tu dois vraiment être un mauvais coup, en fait, parce qu'en réalité, un sextoy ne remplacera jamais un homme, en tout cas pour une femme, et d'autres cas pour des relations homosexuelles ou autres. Mais en tout cas, pour revenir au sextoy, c'est que toutes les données qui sont absorbées, et là, il y a d'ailleurs une sociologue mexicaine qui utilise ce terme, elle l'utilise dans son livre Privacy is Power. Vélis, elle s'appelle, et elle raconte en fait que tous ces objets sont des absorbeurs de vie intime. C'est-à-dire qu'on va aller collecter des données sous nos draps qu'on n'aurait jamais connectées à travers des outils qu'on utilise pour communiquer, échanger, avoir de l'information. Et qu'est-ce que ça dit nous et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces data?
Du coup, c'est une question qui est... Je crois pas que vous la traitiez dans le livre, mais les données sont échangées entre plateformes, c'est-à-dire que Tinder va acheter les données trouvées ailleurs, on sait pas ça, on n'a pas...
Alors, ça, je sais pas, par contre...
C'est pas du tout s'ils utilisent l'ensemble des données collectives.
Je serais pas étonné qu'ils achètent des données pour croiser avec leurs propres données et faire des projections, ça me paraîtrait pas idiot. Mais je sais pas du tout, ça je pourrais pas le dire, non.
C'est pour ça que du coup, vous en parlez pas.
Non.
Donc là, on va revenir sur un sujet que vous avez effleuré tout à l'heure, qui était les algos sont très puissants, ils nous poussent des contenus qui nous plaisent le plus, on a compris, ça nous met dans une espèce de
bulle. Et ils ne sont pas coupables.
Non, ils ne sont pas coupables.
C'est les gens qui les algos, ont décidés ainsi. Et par ailleurs, parce que là, on va croire que ce n'est pas un livre qui blâme et qui condamne. Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment, grâce à ces outils, on peut aussi rencontrer des gens. Les applications de rencontre, si on parle d'elles, par exemple, ont permis à des gens de se rencontrer dans des coins reculés dans certains pays, voire dans des familles plutôt conservatrices où ils n'arrivaient pas à assumer leur homosexualité. Ça a été beaucoup de témoignages autour de ça, par exemple, ou plein d'autres choses. Donc il y a vraiment, voilà, il n'y a pas que du...
Oui, vous avez raison de le souligner, c'est pas du tout un livre qui juge, c'est un livre
qui explique comment ça fonctionne.
Pourquoi et comment ça marche, de façon à justement faire le meilleur usage tant qu'à faire.
Exactement.
C'est un peu l'idée. Mais en tout cas, ils ont quand même, si on y fait pas attention, tendance à renforcer les biais de reproduction sociale. Vous avez effleuré le sujet bourdieusien, mais c'est important de bien comprendre qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est un peu comme quand sur nos réseaux, on va voir que ce qui nous plaît.
Exactement. Et moi, j'ai trouvé que c'était passionnant. Parce que, en fait, pendant 2 ans, j'ai lu plus de 50 livres, plus de 100 papiers de recherche de sociologie, d'algorithmique. Enfin, je me suis éclatée. J'espère que la bibliographie plaira aux lecteurs et pourra ensuite aller lire d'autres livres que je conseille. Les papiers sont un peu durs à lire, mais les livres sont plus faciles. En fait, lorsque ces applications de rencontres ont été créées, et c'est marrant parce que je reviens aussi à l'utopie d'Internet où on pensait que ça allait ouvrir le monde et c'est pas si simple. Mais pour les applications de rencontres, on se disait, bah voilà, on fait une les applications de rencontres vont casser toutes les barrières sociales, culturelles, ethniques, religieuses, économiques entre les individus et on aura une grande mixité des relations sentimentales. Et ben ça, c'était l'utopie, parce que c'est l'inverse qui s'est passé sur les relations. Maintenant, sur les applications de rencontre, on a pas mal de recul, on a pas mal de données. Et en fait, on a moins de mixité sociale, économique, culturelle, ethnique, religieuse, des gens qui matchent, parce qu'après, on ne sait pas ce que ça devient, hein, mais après, c'est du déclaratif, hein, où les gens qui se mettent ensemble après, on a moins de mixité que dans le vrai monde. Maintenant, c'est pourquoi ? Et c'est ça que j'essaie de comprendre, moi, sous l'angle de l'algorithmique, ça n'a pas été étudié sous l'angle de l'algorithmique. C'est que sur ces outils, on va matcher avec, on va correspondre avec une autre personne sur des critères explicites que nous on donne. Je veux un homme ou une femme entre tel âge et tel âge. Certaines applications pouvaient spécifier la religion, etc. Et puis vous avez des données implicites, comportementales, qui vont être quel type de profil j'ai tendance à aimer, quel type de profil j'ai tendance à rejeter. Et c'est là où entrent en jeu nos propres biais, notre discrimination renforcée sur ces applications. Encore une fois, les algorithmes de recommandation ne font qu'apprendre sur nos comportements, ne font que reproduire les tendances statistiques générales de nos comportements. Grosso modo, comment ça se passe, pour que les gens puissent comprendre, c'est qu'on a des algorithmes, en fait, vont classer les utilisateurs, donc un groupe d'utilisateurs qui vont être utilisés pour l'entraînement, vont classer les utilisateurs en fonction de similarités statistiques dans leur comportement. C'est-à-dire qu'on va mettre des gens qui vont plutôt aimer certains types d'hommes, certains types de femmes ensemble. Et puis, donc, auront certains types de comportements, d'habitude sur ces applications. Et puis, l'idée, c'est que moi, Aurélie Jean, nouvelle utilisatrice de Tinder, par exemple, je vais être projetée dans l'espace multidimensionnel. Je vais voir à quelle classe, l'algorithme voit à quelle classe j'appartiens. Et l'idée, la suivante, c'est de dire, bah, il y a de fortes chances que un homme qui a plu à une des femmes de cette classe plaira en retour à Aurélie, puisque les femmes se ressemblent. Et ça s'applique aussi pour les hommes, relations homosexuelles et autres. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que déjà, on nous met dans des bulles sentimentales où on va avoir tendance à avoir toujours les mêmes personnes. Mais aussi et surtout, c'est que, vu que l'algorithme va nous classer au regard de nos comportements étant plus discriminants et biaisés sur ces applications, on va tendre vers des suggestions plus discriminantes. Et là, ce qu'on observe est assez flagrant, c'est qu'on observe typiquement qu'il y a certaines catégories de population qui sont très discriminées sur ces applications, en particulier les hommes asiatiques ou les femmes noires, par exemple. Ou
C'est-à-dire qu'ils ont moins statistiquement moins de matchs que voilà. Ce qu'ils devraient avoir
dans la vraie vie. Ou encore un autre exemple, donc il y a plein d'explications à ça, on parle d'exotification, on parle de discrimination, enfin, il y a plein de sujets autour de ça. Et puis, il y a aussi les hommes ou les femmes en surpoids, certains portant des lunettes et autres. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Et je donne mon exemple, parce que je ne suis pas meilleure qu'une autre, parce que moi, j'ai voulu découvrir cette application pour le livre aussi, savoir. Donc, j'ai créé des faux comptes avec des fausses photos. Voilà, je me suis amusée un peu. Et ce qui est intéressant, c'est que moi-même, je me suis vue avoir un comportement mécanique que je n'aimais pas. Je n'aimais pas l'image que je développais de moi-même sur ces réseaux. Et typiquement, j'avais un comportement mécanique basé que sur le physique et une mise en scène. C'est-à-dire que dès qu'un homme avait un chien avec lui, je likais. Enfin, j'aimais automatiquement. Ridicule. Pardon, parce que j'adorais le chien. Je ne sais pas si c'est le chien que j'aimais ou si c'était le profil. Et puis, je remarquais typiquement, par exemple, que je rejetais systématiquement les profils qui portaient le nom d'un de mes ex. Aucune raison, aucun comportement rationnel derrière ça. Ou encore, et je le dis, hein, je rejetais systématiquement ou quasi systématiquement les hommes en surpoids. Et là encore, aucune raison, puisque j'ai passé 11 ans avec un homme en surpoids et que j'ai aimé. Donc, en fait, ce que j'explique, c'est que je ne suis pas meilleure qu'une autre. Donc, si moi, je discrimine, je pense que tout le monde le fait et que les statistiques, les études sociologiques démontrent qu'on discrimine énormément, qu'on devient plus dur sur ces applications. Et donc, qu'est-ce que ça dit nous-mêmes dans le vrai monde? Parce qu'il ne faudrait pas, justement, et c'est ça, c'est la théorie d'Anna Boyd qui explique, la sociologue américaine, que nos comportements dans la sphère publique et infrastructure médiatique vont influencer nos comportements dans le vrai monde. Et du coup, on risque de devenir encore plus discriminant, plus horrible. Et pour reprendre l'exemple que vous donniez, à savoir celui qui a swipé à gauche ma copine en quittant le restaurant sans lui dire au revoir, c'en est l'incarnation.
Le temps file, le temps file. J'aimerais qu'on aille un peu dans un univers où on n'est plus, nous, on ne cherche plus à rencontrer un homme, mais on va parler des algos qui nous génèrent des émotions avec les algos. C'est-à-dire, en fait, on n'est plus entre soi. Vous dites, attention, on peut aussi développer, enfin, avoir une confusion des sentiments. Ouais. Je ne sais pas, si je faisais un sondage à main levée, je suis sûr qu'on est plein à s'être excusé auprès de ChatGPT à un moment donné.
Oui.
Et dans le domaine amoureux, ça existe aussi.
Exactement. Alors, c'est l'avant-dernier chapitre, la confusion des sentiments, où j'explique en fait comment toutes ces technologies créent de la confusion des sentiments, tant dans les relations sentimentales que dans notre rapport à l'amour avec très large. Ça va être l'amour d'agapé aussi, hein, l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on peut être amené à aimer autant une technologie algorithmique qu'un être humain. Et ça pose un problème philosophique, humain, sociologique, comme vous voulez, social. Et donc, typiquement, ça annonce, c'est l'effet Elisa. C'est-à-dire que quand vous allez interagir avec une technologie, un algorithme, une IA, un robot, une application, un logiciel, peu importe, qui va avoir des caractères similaires à l'humain, on parle de caractères anthropomorphiques, on a tendance en fait à développer de l'empathie pour cet outil. Je donne deux exemples. Si vous avez un robot qui ressemble à un humain, ou un robot qui est une boîte carrée, cubique, pardon, vous n'aurez pas le même comportement. Vous allez développer de l'empathie, vous allez pouvoir dire éventuellement merci, pardon, bonjour à ce robot humanoïde, que vous ne feriez pas forcément avec un robot en forme de cube, parce qu'en fait, dès qu'on voit quelque chose qui nous ressemble, on a tendance à se projeter soi-même. Ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on a de l'empathie. On a ces fameux neurones miroirs. Bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que ça crée de la confusion sur nos interactions et nos rapports les uns avec les autres en tant qu'humains. Et ça, un nom s'appelle effet Elisa. L'effet Elisa, parce qu'Elisa, c'était le nom du premier chatbot qui a été développé en 1967 par le professeur Weizenbaum au MIT avec son équipe, qui était un chatbot juste à l'écrit, qui était vraiment hyper bête. Enfin, c'était vraiment des structures conditionnelles de base. Et ce chatbot, c'était une expérience. Il échangeait à l'écrit avec des patients en psychothérapie qui savaient qu'ils échangeaient avec un robot. Et donc, le chatbot faisait deux choses et seulement deux choses. Il reformulait sous forme de questions les déclarations du patient. Donc, par exemple, lorsque le patient disait « Petit, je ne m'entendais pas avec mon frère », le chatbot répondait à l'écrit. Alors, ça marche très bien en anglais, ça marche moins en français, mais c'était en anglais, donc ça marche très bien. Petit, virgule, vous ne nous entendez pas avec votre frère, point d'interrogation. Et de temps en temps, le chatbot écrivait « je vous comprends ». Au bout de quelques échanges, alors que les patients en psychothérapie savaient qu'ils échangeaient avec un algorithme, un chatbot, ont commencé à développer de l'empathie et une certaine affinité émotionnelle, un lien d'attachement avec ce chatbot, en disant « mais regardez, il me comprend ». Et donc, c'est intéressant, parce que de là, en fait, on appelle l'effet Elisa, l'effet d'émotions spontanées envers une machine, une application, un logiciel, un algorithme, une IA qui a des caractères anthropomorphiques. Et je donne souvent l'autre exemple, un chatbot, c'est que moi je pourrais vous développer, enfin c'est même pas, c'est tout simple, hein, c'est deux lignes, d'écrire un chatbot qui vous dise tous les matins je t'aime, t'es magnifique, tous les matins. Il y a un moment où vous allez vous attacher émotionnellement à ce chatbot. Mais c'est pas parce que le chatbot vous dit je t'aime que le chatbot maîtrise les émotions sous-jacentes à ce « je t'aime ». Et c'est ça qui est important. Alors, je le dis dans le livre, j'ai un ami à moi que je cite, Thomas Doutrepont, qui est philosophe, et quand je lui raconte tout ça, et il me dit « mais tu sais Aurélie, quand un homme te dit « je t'aime », tu ne sais pas s'il l'exprime, s'il ressent ce qu'il exprime. »
Pas besoin d'être philosophe.
Voilà, et là je lui dis, bah, moi je suis quand même très naïve, parce que j'avais jamais pensé ça, et du coup j'ai dû aller ensuite chercher vers les neurosciences et plus la philosophie pour aller creuser et trouver la bonne raison. Et je retourne donc vers le neuroscientifique américain d'origine portugaise Damasio, toute la théorie Spinoza, et l'idée en fait que une émotion, c'est la réaction, la réaction donc du corps à un stimuli extérieur lié à notre corps et qui va ensuite être envoyé à notre cerveau, qui peut potentiellement se transformer en sentiment lorsqu'on en consciencialise. Mais voilà, donc une émotion, pour avoir des émotions, il faut avoir un corps. Et c'est là où je tire tout le fil ensuite de cette idée contre-productif, fausse et erronée de dire qu'une IA, un algorithme, va avoir un jour des émotions. Absolument pas.
Il peut nous en créer.
Et il peut nous en créer, il nous donnera l'impression qu'il en a. Et c'est bien pire.
Oui, c'est bien pire parce que du coup, on va arriver au bout de notre échange. Parce que s'ils prennent une forme réelle, ce qu'ils sont en train de faire, on commence à avoir des poupées sexuelles dotées d'agents conversationnels. On a parlé de secteur connecté. C'est quoi les limites? À quel moment On va brouiller le réel, l'irréel, on va brouiller le vrai du faux. Est-ce qu'il y a des limites et est-ce qu'il y a une réglementation? Parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit très calé en termes de limites éthiques qu'on se fixe. Quelles seraient les limites dans lesquelles ne pas aller? Parce que vous développez des exemples qui peuvent faire froid dans le dos si on les laisse avancer un peu plus
loin. Alors, scientifiquement et technologiquement parlant, on va pouvoir faire plein de choses. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir faire énormément de choses. La robotique, moi, je crois énormément à la robotique pour aller aider dans des hôpitaux. Moi, j'ai travaillé avec le CHUM, qui est l'hôpital de Montréal, à l'époque où Fabrice Brunet, le professeur Fabrice Brunet, dirigeait l'hôpital. Et il a complètement robotisé l'hôpital. Et il a licencié personne par ailleurs. Il a rendu l'hôpital plus humain, permettant par exemple à des patients de pouvoir se laver seul grâce à une machine pour les aider. Et ça donne de la dignité quand on peut se laver seul, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'il a fait qui sont passionnantes. Et ça peut aider d'avoir un robot qui peut-être a des... Pour le coup, on peut utiliser l'effet Elisa à des fins positives pour rassurer l'individu. Et d'ailleurs, on l'utilise déjà lorsqu'on a des chatbots embarqués dans des peluches pour enfants pour encourager un enfant malade à prendre ses médicaments en créant un lien émotionnel entre la peluche qui parle et l'enfant. Donc, il y a des effets positifs d'Elisa, thérapeutiques. Puis donc, il y a des mauvais effets. Donc, si on prend des poupées sexuelles... Alors, les poupées sexuelles, c'est un vaste sujet. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et pourtant qui est en plein développement. Vous pouvez acheter une poupée sexuelle pour plusieurs milliers de dollars. Donc en euros, ce sera un peu pareil. Et des poupées, alors principalement féminines, parce qu'elles sont surtout développées par des hommes hétérosexuels pensés dans ce sens. Mais ce qui est alors complètement pas du tout réaliste physiquement, mais bon, c'est comme ça. Et mais ce qui est surtout intéressant, c'est technologiquement parlant, vous avez parlé d'agents conversationnels, mais même en dehors de l'algorithmique, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Bon, il y a la robotique elle-même, mais tous les nouveaux matériaux qu'on arrive à développer et qui ont des circuits permettant en fait à des matériaux un peu siliconés pour avoir des changements de température et des capteurs partout. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses. Et les questions qu'on doit se poser, c'est vers quel réalisme on doit aller. Parce que justement, au regard de cette confusion qui peut se créer entre l'homme avec un grand H et la machine, puis il y a, est-ce qu'on doit réguler le dimensionnement de ces poupées, et je donne un exemple qui peut choquer, mais qui existe dans certains pays. Vous pouvez acheter une poupée en forme d'enfant, ou vous pouvez acheter une poupée qui a été spécifiquement dimensionnée pour résister à des actes comparables à des viols et à de la violence physique. Ces deux choses sont dérangeantes. Alors certains vont dire, donc il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui sont absolument contre les poupées sexuelles, donc et puis il y a des gens qui sont complètement pour en disant une poupée sexuelle, ça peut aussi être utilisé à des fins thérapeutiques. Et puis c'est choquant, mais violer une poupée en forme d'enfant, c'est pas la même chose que violer un enfant. Toutes ces choses-là en fait sont fausses quand vous discutez avec des spécialistes, parce qu'en réalité, donc là je reviens ensuite à la pensée de Kant où le fait de faire sur un objet peut en fait dire beaucoup de nous en tant qu'humain et peut être remis en question. Et par ailleurs, comme je dis avec humour, c'est-à-dire qu'on a rarement eu un rapport sexuel avec un téléphone portable ou un ordinateur, alors qu'une poupée, si on l'a, c'est parce qu'elle a une forme de poupée. Donc, il faut vraiment réfléchir à toutes ces choses, vers quoi on veut aller, comment on veut le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. Alors, il y a des régulations en termes d'âge. Vous ne pouvez pas acheter de poupée sexuelle si vous êtes mineur, je crois, des choses comme ça. Mais il n'y a pas beaucoup de régulation sur le dimensionnement de ces poupées. Et là, il faut commencer à réfléchir. Pareillement, il y a les spécialistes. J'ai lu beaucoup de papiers, c'est intéressant. Les psychologues, les psychiatres, les gens qui s'intéressent, donc autant les sexologues qui sont des médecins que les sexothérapeutes qui sont des psychologues, donc c'est pas du tout les mêmes métiers. Hein, c'est comme psychiatre, psychologue. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur l'intérêt de ces poupées dans des traitements d'addiction sexuelle ou de comportement de dérive sexuelle. Donc voilà, il y a encore des réflexions, mais moi, c'est ce que je dis, c'est que je trouve ça toujours intéressant d'aller faire des expériences quand elles sont encadrées d'un point de vue éthique, et elles sont déjà très encadrées quand on fait par exemple des expériences sur des animaux et autres. Il y a des questions qu'on doit se poser. Par contre, il ne faudrait pas se fermer les yeux et se fermer les oreilles en disant que ça n'existe pas, parce que ça existe, ça se développe et ça va arriver. Voilà.
Est-ce qu'on est à la... Est-ce que l'arsenal réglementaire avance quand même, parce que là il n'y a pas de régulation, mais est-ce que c'est pris en compte en ce moment? Est-ce que, au-delà de milliers de comités qui vont réfléchir et faire des recommandations, est-ce qu'on a un arsenal réglementaire qui se met en place, comme sur la RGPD ou sur plein de choses comme ça?
La bonne nouvelle, c'est qu'on a le RGPD qui a d'ailleurs influencé le texte américain, le CCPA, le California Consumer Privacy Act, qui a été créé en Californie, qui est maintenant reconnu presque 15 ou un peu plus d'États américains aujourd'hui, qui un jour deviendra un texte fédéral. Nous, on a le RGPD. Donc, pourquoi je dis que c'est déjà une bonne nouvelle ? Parce que ça régule les données, la collecte, le stockage et le traitement des données à caractère personnel. Ces algorithmes dont on parle depuis le début fonctionnent tous sur des données à caractère personnel. Donc, déjà une régulation par ça. Maintenant, il faut aller plus loin. Et donc, l'Europe a réfléchi et a développé un texte il y a plusieurs années qui est le AI Act, qui est parti il y a un an et demi, qui a été voté au Parlement, mais qui a dû aller en pourparlers dans chacun des pays parce qu'on n'a pas de constitution en Europe. Les gens l'oublient, mais à cause de ça, on est obligé de passer plus de temps à essayer de discuter avec les uns et les autres pour arriver à déployer une loi à l'échelle européenne. La loi est revenue au Parlement, elle a été finalement votée, elle va être mise en application en 2026. Avec une pré-application en 2025 chez les acteurs. Et donc je dis ça parce que cette loi, elle est intéressante, donc c'est un règlement. Donc bien évidemment, moi, comme tout règlement, je suis toujours intéressée par son application, parce qu'il faut créer de la jurisprudence. Et moi, je crois beaucoup à la jurisprudence pour faire avancer ces lois, puisque sinon, on va être déconnecté du terrain. Et donc, il faut des cas, il faut qu'on l'applique et qu'on voit où ça va. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un texte, il fallait un texte. Maintenant, il faut arriver à comprendre si ce texte est bien fait. Il est basé sur le niveau de risque de ces IA, très intéressant. Il y a un point, et je l'explique dans le livre, il y a un point où je mets un petit bémol, c'est que j'ai l'impression qu'il est plus conservateur que le RGPD, et pas conservateur parce que le RGPD, qui est en fait un texte assez libéral et protecteur des droits fondamentaux, donc c'est un très beau texte, une très belle révolution qui a influencé pas mal de textes, dont le texte américain, c'est que le AI Act, en fait, il faut toujours avoir des textes qui soient quand même visionnaires et non pas gestionnaires d'un État, d'une situation actuelle. Et moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est par exemple lorsqu'on a eu le déploiement public de la version 3 de ChatGPT. Je dis public, parce qu'il y a plein de versions qui existaient avant, et pas que ChatGPT, plein d'autres outils. Moi-même, j'ai travaillé sur ces outils en 2017 à Bloomberg. C'est que on a commencé, je dis on, c'est les législateurs, ont commencé à amender les articles pour prendre en considération les IA génératives. Et là, je me suis dit... Alors là, on est mal, parce que les IA génératives, ça fait des années qu'elles sont en développement. Et si le législateur ne le savait pas, c'est qu'il n'a pas écouté ce qui se faisait en recherche. Et l'algorithmique, l'IA, fait partie des rares sciences où on a une translation assez rapide entre la recherche et le cas industriel. Et c'est pour ça qu'on a autant de travaux de recherche qui mènent à des entreprises aussi rapidement, et qu'on a un déploiement industriel d'outils de recherche beaucoup plus rapide qu'il y a... Je dis souvent, moi, ce que j'ai fait en thèse n'est toujours pas dans l'industrie. Ce que j'ai fait avec Dr Binayouch et Dr Grégory Ramsianou dans le cas du cancer du sein, 2 ans après, on a créé une boîte. Donc c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et donc la réglementation, elle existe, il va falloir l'appliquer, voir comment elle est. Et côté américain, on a eu 2 choses qui sont arrivées. D'abord, un ordre exécutif de la part de Biden l'année dernière pour aller donner un signal à tous les États des États-Unis en disant, grosso modo, indirectement, préparez-vous à faire votre texte. C'est un peu ça, l'idée. Ça ne viendra pas de l'État fédéral. Je pense que ça viendra des États, comme on a fait pour le CCPA. Et puis là, il y a eu un autre texte qui est sorti de la Maison-Blanche pour insister sur les responsabilités des acteurs. Mais je pense qu'il faut aller plus loin, parce que ça fait un an et qu'aucun État, même la Californie, n'a pas encore réfléchi à un texte sur le sujet. Mais clairement, il faut de la réglementation, mais qui, comme je dis souvent, permet d'innover tout en protégeant les droits fondamentaux des individus, et c'est possible. Le RGPD l'a démontré.
Aurélie Jean, merci beaucoup pour cet échange riche et ce voyage passionnant dans les nouveaux codes de la relation amoureuse. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Code a changé, aux éditions de l'Observatoire. Vous pourrez retrouver ce livre à la librairie Mola, sur mola.com et au fond de la salle pour une séance de dédicace. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.